ラジオオカピ
オカピ
オカピservice, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Au Capi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Voilà, c'est la deuxième. On va bien commencer cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service avec ces sujets sur comment bien s'occuper des personnes atteintes par les maladies mentales. Le professeur Okitundu Daniel, neuropsychiatre, sera notre invité. Si vous êtes intéressé, vous voulez intervenir, on vous rappelle toujours le numéro des contacts. C'est les 081 890 63 94 ou encore les 099 706 63 94. Et voilà, Polydor Basunga est toujours bel et bien là, la mise en onde de ce magazine, supervisé, plutôt coordonné et réalisé par Tati Mapoko sous la supervision de Jean-Marc Matako. Micro, c'est Marcel Ngombo Mbala.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Voilà, des personnes qui ont de problèmes de santé mentale se retrouvent dans la rue de Kinshasa et les autres villes de la République démocratique du Congo sans assistance. On trouve même certains se nourrir de tout ce qu'on jette dans les poubelles. Et ils sont même méprisés par les passants. Il y a encore d'autres qui sont, en tout cas, il faut faire très attention, très violents, qui peuvent agresser des paisibles citoyens. Alors, comment bien s'occuper de cette catégorie des personnes? Notre invité, le professeur Okitundu Daniel, neuropsychiatre et déjà en ligne. Bonjour professeur Okitundu Daniel.
Oui, bonjour.
Ça nous fait énormément plaisir de vous retrouver encore ce matin sur nos antennes pour parler des personnes et souffrant de maladies atteintes de maladies mentales et surtout à toutes ces personnes qui errent, qu'on trouve dans le rue de Kinshasa et bien évidemment d'autres villes de la RDC qui sont sans assistance, qui ont même des problèmes des fois pour s'alimenter. On voit certains d'entre elles qui essaient de voir tout ce qu'il y a comme déchets alimentaires, tout ce qu'il y a comme résidus alimentaires dans les poubelles, qu'on jette dans les poubelles pour se nourrir. Il y a également ceux qui sont très, très violents. Alors, avant de parler de cette catégorie de personnes souffrant de maladies mentales, de celles qui sont violentes et de celles qui ne le sont pas, dites-nous d'abord, quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne souffre d'une maladie mentale?
Oui, la maladie mentale, c'est un problème de santé cérébrale. Donc, c'est un problème de cerveau. Il y a un mauvais fonctionnement au niveau du cerveau. Et si nous considérons la définition de la santé mentale, avec ces trois dimensions, il y a le bien-être émotionnel. Il faudrait avoir des émotions positives et avoir un contrôle de ces émotions négatives. Il y a le bien-être psychologique. Il faudrait avoir des pensées positives et avoir un raisonnement adéquat en situation donnée. Et puis, il y a le bien-être psychosocial. Il faut avoir de bonnes relations avec soi-même, avec les autres et avec son environnement. Alors, quand il y a un dysfonctionnement au niveau cérébral, pour des raisons rédo familiales ou à cause des traumatismes que le psychisme a connus à un moment donné de la vie, ou à cause d'un processus de maladie au niveau du cerveau, en ce moment-là, on peut présenter un trouble mental qui est défini comme des réactions inadaptées qui se manifestent par des émotions, des sentiments, des comportements, des pensées qui sont nuisibles à la personne elle-même, à la vie avec les autres et au travail. Et quand on a ces éléments-là, on peut parler du trouble mental, et on parle de maladie mentale pour des troubles mentaux bien connus, ayant des caractéristiques déjà connues et qui portent des noms bien précis.
Alors, puisqu'on va parler aujourd'hui de comment s'occuper de ces personnes qui ont de problèmes de maladies mentales ou de troubles mentaux, mais dites-nous, professeur, qu'est-ce qui se passe que on voit comme ça dans les rues de personnes qui ont des problèmes mentaux? Des fois, on s'est dit, mais ces personnes, on pouvait bien peut-être les encadrer, mais comment ils se retrouvent dans la rue? Est-ce que simplement parce que ces personnes ont atteint un stade du trouble mental qu'on ne sait plus les encadrer, ou parce que personne ne peut s'en occuper?
Oui, il y a plusieurs catégories de maladies mentales. Et dans d'autres formes de maladies mentales, la personne qui est affectée ne se reconnaît pas malade. Alors c'est son entourage. S'il n'a pas d'entourage familial, il n'a pas de responsable au niveau familial, c'est l'État qui doit s'occuper de ces personnes-là. Alors le malade mental errant, ce sont des malades qui souffrent, qui ont une pathologie mentale très grave, dans laquelle ils n'ont pas conscience de leur état de maladie. Ils ne peuvent pas eux-mêmes se présenter à l'hôpital ou aller demander des soins. Alors, c'est de la responsabilité de la famille et de la responsabilité de l'État.
Ah, donc à ce moment-là, s'il n'y a ni du côté de la famille, ni du côté de l'État congolais, personne ne peut s'occuper de ces malades mentaux, ce qui fait qu'on les voit errer comme ça dans les rues. Mais qu'est-ce qui se passe que, comment expliquer, il y a certains de ces malades, surtout ceux qu'on retrouve dans la rue, il y a ceux qui, de fois, sont très, très agressifs, et puis il y a d'autres, qui paraissent plus calmes.
Oui, il y a plusieurs catégories de maladies mentales. Il y a deux cas de maladies mentales où la personne malade mentalement est agressive et violente. Donc c'est connu, ça dépend de la catégorie de la maladie mentale dont la personne souffre. Alors, il arrive aussi que des personnes qui ont la maladie mentale à cause de la consommation de drogue se présentent aussi comme des personnes malades mentales agressives, ou s'il y a un processus au niveau du cerveau, dans la région où on gère l'agressivité au niveau du cerveau, à ce moment-là, la personne peut montrer une agressivité mal contrôlée et arriver même à commettre des crimes. Alors, je disais, si l'État n'est pas responsable, la famille n'assume pas ses responsabilités.
Oui.
Maintenant, c'est la responsabilité des organisations de la société civile, notamment les organisations de droits de l'homme, les organisations confessionnelles et ces acteurs de la société civile ONG qui ont la thématique de santé mentale. Et c'est depuis 2001 que cette question nous préoccupe. Nous avions mis en place le réseau des ONG d'action en santé mentale qui a connu des difficultés et que nous venons de redynamiser, et nous cherchons à ce qu'il y ait d'activités aussi en faveur de ces personnes malades mentales errantes. Nous nous préparons pour ça.
Ah, c'est une très bonne chose. On espère que ça va bien marcher. Et puis, ça sera l'occasion pour, en tout cas, nous, également, au niveau de ce magazine Okapi Service, de voir comment ça marche. Mais il y a aussi cette préoccupation, professeur Kitundu. Est-ce que pour le trouble mental, il y a un stade, en tout cas, auquel, lorsque, dès le départ, la personne présente certains troubles, et puis, on ne sait pas le suivre à ce moment-là, et ça paraît trop tard, même si on essaie de l'amener dans des centres spécialisés.
Oui, l'idéal est que le traitement soit précoce, parce que plus la personne malade mentale demeure dans sa maladie, et plus son cerveau s'altère, et on peut avoir des comportements difficiles, notamment l'agressivité et la violence qu'un malade n'avait pas avant. Donc il faudrait absolument prendre plus rapidement la personne malade et éviter que la personne fasse des rechutes ou des récidives de la maladie, parce que chaque rechute ou chaque récidive aggrave la situation du point de vue du fonctionnement cérébral. Et puis ça affecte le sentiment de soi-même chez le malade, même si dans sa maladie mentale, il n'est pas en bonne relation avec les autres, mais c'est une souffrance psychique qui peut aboutir à une situation même de suicide ou d'homicide, étant donné que l'on souffre et qu'on n'a pas les soins qu'il faut. Donc il faut absolument s'occuper de ce malade-là dans la durée, le prendre précocement en charge et éviter qu'il fasse des récidives et des rechutes pour ne pas aggraver leur situation.
Alors pour ça également, il y a également dans l'entendement commun ces constats que c'est plus les hommes qu'on retrouve dans les rues qui ont des problèmes mentaux plutôt que des femmes. Est-ce qu'il y a une raison à cela ou bien c'est simplement fortuit?
Je n'ai pas bien saisi votre préoccupation. Vous parlez de femmes malades mentales errantes ou quoi?
Non, je dis ceci. Il y a un constat qui est fait, hein, en toi de l'entendement commun dans les rues. Souvent, lorsqu'on voit des personnes qui ont de problèmes, de troubles mentaux, c'est plus les hommes que les femmes. Est-ce qu'il y a une raison à cela ou bien c'est fortuit?
Ah, vous dites qu'il y a plus des hommes que des femmes qui sont dans la rue.
Exactement, qui ont des problèmes mentaux. C'est tout à fait un hasard ou bien c'est plus souvent des statistiques qui peuvent démontrer qu'il y a plus des hommes qui sont concernés que les femmes avec tout ce qui a comme problèmes mentaux.
Oui, pour la maladie mentale la plus grave, elle concerne relativement plus d'hommes que de femmes. Et c'est cette forme de maladie mentale plus grave qui peut faire en sorte que les hommes se retrouvent dans la rue. Relativement un peu plus d'hommes que de femmes. La maladie mentale la plus grave et qui peut être responsable de l'errance de la personne malade mentale.
Voilà, professeur Daniel Okitun, on vous garde toujours en ligne.
Allez-y, oui. La consommation de drogue.
Oui.
La consommation de drogue pouvant donner lieu à des troubles mentaux, à des maladies mentales, elle est plus fréquente chez l'homme que chez la femme.
Voilà, tout à fait. On revient à vous, professeur Daniel Okitundu. Nous avons déjà Charles en ligne qui nous appelle de Lubumbashi, également docteur Baudouin qui est tradit praticien, qui soigne le maladie mentale à Kikwit, qui est en ligne, qui va intervenir. Nous rappelons pour ceux qui viennent de se joindre à nous sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. On parle de comment bien s'occuper des personnes atteintes par les maladies mentales avec le professeur Okitundu Daniel qui est neuropsychiatre. Si vous voulez intervenir, composez les 0-81-890-63-94 ou 0-9-716-63-94.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Voilà, on va prendre Charles qui nous appelle depuis Lubumbashi. Bonjour Charles.
Et bonjour Martel, bonjour aussi à l'invité ainsi qu'aux nombreux auditeurs.
On vous écoute.
D'abord, monsieur Marcel, ce qui nous dépasse, c'est quoi? Nous voulons savoir quels sont les vrais insignes qui montrent, qui déterminent que celui-ci c'était malade mental. Parce que monsieur Marcel, en 99, à Manono, l'AFDEL a profité dans ces circuits-là, dans ces machias-là, en déguisant les jeunes Kadogo comme si dirait des troubles mentaux. Et l'AFDEL a profité pour conquérir Manono. Alors les gens, ça pensait que ce sont les fous-là, ce sont les troubles mentaux qui sont en train de danser sur les avenues, mais malheureusement, c'était l'ennemi. Alors, on était surpris comme ça. Alors, nous voulons un peu savoir s'il y a les vrais signes qui déterminent que celui-ci réellement c'était malade mental. Et puis, mon grand-père Salangueta, qui n'est plus de ce monde, il avait l'habitude de nous dire que pendant l'administration belge, on arrivait quand même à isoler les malades, donc les troubles mentaux, en construisant une cité à part, appropriée rien que pour eux. Mais malheureusement, moi, depuis que je suis grandi, nous vivons avec eux. Il y a de ces fous-là. Il y a Lumbashi qui est devenu même, je dirais, la capitale des troubles mentaux. Nous vivons avec eux. Il faut même les devoirs pour leurs enfants. Alors, on ne sait pas pourquoi on n'a pas reconduit cette même politique-là de pouvoir isoler, parce que de pouvoir les isoler, parce que nous sommes exposés avec des dégâts énormes. Voilà un peu ce que nous avons voulu demander à notre invité. Merci encore une fois, Monsieur Marcel.
Merci à vous, Charles, d'avoir pris de Lubumbashi. Monsieur Baudouin, vous êtes un des praticiens. Vous êtes à Kikwit, vous occupez des personnes qui ont des problèmes, des troubles mentaux. On vous écoute, Monsieur Baudouin.
Oui, en tout cas, Monsieur la journée, ce n'est pas Monsieur Baudouin, c'est Monsieur Godet, depuis la ville de Kikwit, docteur traduit praticien. Monsieur Godet, ce n'est pas Manono.
On vous écoute, monsieur.
Ok. Monsieur le journaliste, merci. Je me suis tellement ravi de cette émission, puisque c'est depuis longtemps que je m'attendais à cette émission. Vraiment, j'ai commencé à traiter les gens depuis 1997 par l'expérience que je peux dire, monsieur le journaliste. Je suis à Kikwit, ou précisément à Kikwit. Vraiment, avec l'expérience, vous insistez surtout. Quels sont le monsieur vient de poser la question, quels sont les signes? Je vais contribuer après poser des préoccupations à l'invité. Quels sont les signes pour détecter que cet homme, c'était un aliéné mental? L'AFDL avait suspecté. Mais c'est les journalistes, vraiment, laissez-moi vous dire, les signes propres et les signes qui est un peu capitaliste. Il y a des fous là et des folles là qui est très agressives. Par exemple, la majorité, par l'expérience que moi j'ai fait depuis 1997, que j'ai commencé à traiter, malgré l'État congolais, nous, l'Église, nous ne prenons pas en considération, nous, les docteurs administratifs. Laissez-moi vous dire, je peux répondre à ce monsieur-là qui a posé quels sont les signes. Les premiers signes, c'est quoi? Vous devez voir les messieurs très agressifs. Ils ne savent même pas que ça, c'est son père. Ou ça c'est sa mère, ou ça c'est son ami, ou qui. Il parle de trop. Il ne mange même pas du loukou, ou du riz. Il parle de 24 heures à 24 heures, ça répond. Donc, vous pouvez encore voir, il sillonne même toute la ville de Kinshasa. Il s'en aille à Gombe, il retourne à Liberté, il rentre encore en pied. Et mais ce que les gens de l'AFDL ont fait, il fait la folie pendant la journée. Mais la nuit, il se communique avec leurs opérateurs. Mais la journée, il y en a avec des bacs. Mais il n'était pas réellement des fous. Quand vous l'arrêtez, vous le mettez, vous la mettez quelque part pour voir la nuit. Est-ce qu'il dort, est-ce qu'il parle comme il faut. Mais non. Mais la nuit, il se communique avec leurs opérateurs du plan. Mais à ce qui concerne la folie, vraiment, messieurs les journalistes, c'est que j'ai constaté. Autant de fous et de folles, la majorité, ce sont des grands drogués, les fumeurs du chambre, les fumeurs du boisson alcoolique. Laissez-moi vous dire, monsieur le journaliste, vraiment, c'est que parmi l'expérience que moi j'ai fait depuis 1997, je m'attrape beaucoup les fumeurs et les drogués. Et les deuxièmes préoccupations, à ce qui concerne les folles. Vraiment, les fautes, ce sont les maladies cérébrales. Malaria cérébrale. Ça les attaque au niveau du cerveau. Donc, vous voyez que le cerveau de Dieu, bizarre, il parle. Elle ne mange même pas. Elle parle du jour et nuit. Et vous voyez.
Voilà, merci. Merci.
La question posée à l'invité.
Allez-y maintenant, la question, oui.
La question est celle-ci. Comment on peut éviter les troubles? Les troubles continuels, par exemple familiales. Deuxième question, comment mettre fin avec la maladie du drogue? La personne qui a atteint la maladie de folie avec du drogue, c'est vrai, des titres en bas, comment mettre fin à cette maladie-là? Est-ce que la maladie cérébrale, c'est aussi héréditaire? l'invité peut me répondre aussi. Et que si c'est héréditaire, comment faire éviter ça? Voilà, je vous prends congé de Godet depuis Kikwite et Kikwite.
Merci à Godet depuis Kikwite. On revient avec un autre invité, professeur Kitundu Daniel. Alors, si vous voulez bien revenir, professeur, par rapport au signe, hein, la question qui a été posée par Charles pour qui essaye de on peut se dire que cette personne, il faut faire attention, c'est des signes qui peuvent témoigner de problèmes mentaux. Et puis également, vous avez suivi Monsieur Godet qui a cherché à savoir s'il y a moyen. Il a parlé de des signes contrôlés, c'est-à-dire des signes, je pense que vous voulez dire des troubles qui qu'on retrouve généralement dans une famille, hein, des troubles qui des troubles de personnes qui manifestent certains troubles mentaux et qui reviennent souvent dans une famille. Comment on peut arrêter ça? Et puis il a posé également cette question sur comment on peut prévenir les maladies ou les troubles mentaux liés à la drogue, par exemple. Docteur Daniel Okitundu.
Oui, je salue tous les auditeurs qui ont posé des questions là. La question des signes, voilà. On peut dire ceci. Vous partez de la définition que j'ai donnée. Il y a des réactions qui sont inadaptées par rapport à la façon de réagir émotionnellement. Et puis les idées ne correspondent plus aux idées qu'on attend d'une personne. Ce qui fait que le discours, il est totalement un discours étranger par rapport à ce que l'on connaît de la personne. Le comportement, soit la personne peut rester figée dans une position des heures et des heures, même sous la pluie, malgré le soleil, ou rester au lit, ne sortant plus dehors, ou alors la personne devient instable, bouge trop, et puis la personne ne s'occupe plus de la propreté de ses habits, de la propreté de son corps. Donc il y a une modification dans le comportement de façon globale, engageant l'expression des émotions et des sentiments, les attitudes, le penser, les idées, et tout ça change. Alors, une autre façon de comprendre le signe de la maladie mentale, c'est de considérer la relation à soi-même. Nous devons être en bonne relation avec nous-mêmes et nous nous occupons de notre corps. Mais si quelqu'un ne s'occupe plus de son corps, il devient négligent, il ne peine plus le chevet. Il porte des habits sales ou voilà, modification des relations à son propre corps. Il y a des modifications des relations à l'autre. On n'est plus en bonne relation avec les autres. Les échanges verbaux sont nuls. On ne parle plus, on ne répond pas. Ou les échanges verbaux sont tendus. On a des propos agressifs, des propos désobligeants qu'on n'avait pas avant. On peut même agresser l'autre physiquement. Il y a la relation à l'environnement. On ne protège plus l'environnement. On salit, on fait pipi, on fait caca, on jette les déchets partout. Alors, il y a la relation à la loi. Mais ne demandez pas à quelqu'un qui est dans la maladie mentale de respecter la loi. Il ne connaît plus la loi. Il se comporte pratiquement comme un délinquant. Donc il y a la relation à tous les aspects de la vie humaine qui est radicalement modifiée. Et je voudrais dire une chose par rapport aux éléments que Charles a évoqués. Vous savez, la protection de personnes souffrant de maladies mentales est un problème de sécurité individuelle, de sécurité communautaire et de sécurité nationale. Les gens qui sont dans la maladie mentale, ils vivent en dehors de la réalité. Ils peuvent avoir des comportements nuisibles pour eux-mêmes, nuisibles pour leur entourage. Et l'on sait que le rebelle, par exemple, il peut se déguiser sous la forme de malade mental pour pouvoir tromper... échapper à la vigilance des services de sécurité. Donc normalement, on ne devait pas, pour des raisons de sécurité individuelle, communautaire et nationale, laisser le malade mental errant, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire dans la rue. même si on sait que c'est un malade mental authentique, il constitue un danger pour lui-même, pour la communauté et pour la nation. Voilà pourquoi on a besoin d'une législation à ce propos et des actions de l'État, des actions de la société civile, des actions de famille pour qu'il n'y ait plus de malades mentaux errants. Ça, c'est un objectif qu'on doit atteindre et c'est un indicateur de développement social.
Ah, voilà. Et pour cela, il y avait également cette question de M. Gaudier qui a appelé, est-ce qu'il y a le problème de troubles mentaux peuvent aussi être hérédités, parce que là, parler dans certaines familles où les gens manifestent, oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui. La question que les gens se posent, d'où vient le maladie mentale? La réponse est claire. Les maladies mentales peuvent être d'origine hérédo-familiale. C'est-à-dire, au niveau héréditaire, il y a un problème de telle sorte que d'une génération à une autre, la maladie mentale peut être transmise. Ça, c'est une catégorie de maladies mentales bien connues et c'est parmi les maladies mentales les plus graves, n'est-ce pas? Alors, malgré le fait que la transmission soit héréditaire, il y a toujours le facteur, le mauvais facteur de l'environnement qui intervient, notamment le facteur de stress psychosocial de la relation entre les hommes, notamment les expositions environnementales dites aux substances toxiques comme le plomb, comme le mercure, comme le cadmium et bien d'autres substances toxiques comme le monoxyde de carbone, donc la fumée qu'on a dans nos cases ou la fumée des cigarettes ou toute autre fumée. Alors, avec tout ça, les gens se retrouvent dans la maladie mentale pour deux raisons. Soit ils ont une faiblesse d'origine familiale liée à l'ADN, liée dans le cas des chromosomes, il y a ce qu'on appelle les chromosomes du crime. Si vous, au lieu d'avoir un seul chromosome Y, vous en avez deux, donc vous portez 47 chromosomes, donc vous portez un chromosome du crime. Et ces gens-là vont se retrouver en situation de délinquance. Mais il faut simplement le protéger et protéger les autres parce qu'on ne peut pas changer leur chromosome. Tout ce qu'on peut faire, c'est le mettre dans un environnement protecteur pour le protéger et protéger aussi les autres. Donc je disais qu'il y a donc des maladies mentales d'origine héréditaire, d'origine familiale. Donc d'une génération à une autre, on peut avoir donc des cas de maladies mentales parmi les parents, des cas de maladies mentales parmi les grands-parents, en avoir chez les petits-enfants, en avoir chez les enfants. En ce moment-là, la personne a besoin d'une protection toute sa vie. C'est-à-dire la prise de médicaments psychotropes qui agissent sur le cerveau, elle doit être démise. Non seulement la prise de médicaments psychotropes, mais le traitement psychologique aussi et le traitement social. Et je voudrais dire traitement social, expliquer un peu. Si l'être humain ne fait rien du matin jusqu'au soir et qu'il a un problème de santé mentale, il ne pourra jamais être stable. Donc le malade mental a besoin d'être occupé, ont besoin de travailler, de réaliser des activités qui permettent aussi de stabiliser leur état de santé mentale. Donc, si la maladie mentale est hérédo-familiale, on a besoin du traitement toute sa vie. On a besoin aussi du traitement psychologique et du traitement social en termes d'occupation et de bonnes relations avec les autres. Alors, il y a des cas de maladies mentales qui sont dues à une vulnérabilité psychosociale, c'est-à-dire au début de sa vie ou même pendant la grossesse, on a été exposé à des risques qui affectent la structure et le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire le cerveau est mal formé, il fonctionne mal parce qu'on a connu des problèmes depuis les temps de grossesse. Un des problèmes, par exemple, c'est le stress de la femme enceinte pendant la grossesse. Le stress, quand une femme enceinte est très stressée et avec une détresse psychologique importante, ça va affecter le développement du cerveau de l'enfant qui va naître. Et cet enfant qui va naître aura des difficultés à fonctionner du point de vue du fonctionnement de son cerveau et ne pourra pas avoir une santé mentale optimale ou positive avec un risque, s'il s'ajoute d'autres facteurs négatifs de l'environnement, de présenter un trouble mental ou une maladie mentale. Il y a la malnutrition de la femme enceinte. Il y a les difficultés à la naissance, des enfants qui ne respirent pas bien à la naissance ou qui, juste après la naissance, souffrent d'autres maladies qui affectent leur cerveau. Toutes ces catégories de personnes qui sont exposées à des risques environnementaux, à des maladies, sont fragilisées dans le fonctionnement de leur cerveau et dans certaines situations, ces personnes peuvent présenter facilement des troubles mentaux et du comportement. Donc, la prévention consiste donc à éviter les agressions du cerveau depuis le temps de grossesse, au moment de l'accouchement et après la naissance, voilà, en minimisant le facteur de stress pour les gens et en aidant les gens à gérer le stress, parce que c'est inévitable le stress, oui. Et puis ceux qui ont une vulnérabilité, une faiblesse d'origine et réseau familial, le traitement doit durer en termes de traitement médicamenteux toute la vie, et puis à cela il faut ajouter les mesures psychologiques et sociales.
Voilà, professeur, on prend deux auditeurs en ligne, puis on revient à vous. Il y a parfait, plutôt Altan qui nous appelait de Fongoroumé dans les Lualaba, et puis Baraka Kambali qui est à Boutembo. Altan, vous êtes à Fongoroumé, bonjour. Altan, vous êtes à Fongoroumé? Mais c'est pas ça, peut-être des petits soucis avec la ligne d'Altan. Il y a, on va aboutir, bon alors, pour retrouver Baraka. Baraka, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, on vous écoute, Baraka.
Bon, j'ai des petites questions à poser à notre invité. Avant de poser ces deux petites questions, j'ai une préoccupation, puisque moi-même, je viens de la zone de combat au territoire de Mambasa. En tout cas, ici à l'est de la République démocratique du Congo, nous constatons que le nombre de fous ou ceux qui sont troublés mentalement va augmenter, puisque nous vivons vraiment des catastrophes qui stressent la population. Par exemple, ceux qui perdent leur véhicule, les champs, la maison est brûlée. En tout cas, plusieurs d'entre eux, puisqu'ils ne sont pas accompagnés mentalement ou psychologiquement, ils tombent souvent dans un état de trouble mental. Maintenant, je demanderai à notre invité, quelle est la politique du gouvernement pour arrêter tout cela, puisque la population est vraiment menacée par cela? Deuxième question, ces personnes qui sont troublées à cause de la guerre, on a brûlé son véhicule, on a brûlé sa maison, il a laissé son champ, le seul chat qui lui donnait à manger, et il se retrouve dans un état de déplacement irresponsable devant ses enfants. Il est vraiment sous stress ou il est vraiment sous stress permanent. Et est-ce que ces gens-là seront-ils indemnisés, comme nous avons attendu que les victimes de Kisangani soient indemnisées? Est-ce que ces gens ici seront-ils aussi indemnisés? C'est ça, c'est pour là les deux questions que je voulais poser,
voilà,
à notre invité.
Merci à Baraka. Dommage que notre invité n'est pas du gouvernement. Lui, il est un expert. Peut-être que prochainement, on pourra, dans ces genres de sujets, associer également quelqu'un du gouvernement pour, en tout cas, répondre à ces genres de préoccupations. Merci, Baraka Kambale, d'avoir appelé de Boutembo, mais il pourra tout de même réagir par rapport à votre préoccupation. Docteur Okitundu Daniel, on vous écoute.
Oui, voilà. À l'Est, par exemple, nous savons que c'est le lieu où les gens subissent le stress et le traumatisme psychique de tout genre et en répétition. Cela affecte gravement l'état de santé mentale de nos frères et sœurs de l'Est, comme l'auditeur vient de les décrire. Alors, le pays a d'abord un problème de politique nationale en santé mentale. Nous venons de travailler avec le programme national de la santé mentale le document en termes de politique nationale de santé mentale. Ce document doit être adopté par le gouvernement et puis il doit être vulgarisé, il doit être implémenté. La santé mentale fait partie, les soins de santé mentale font partie des composantes des soins de santé primaires dans notre pays. Malheureusement, l'implémentation tarde à venir. Mais en attendant, à l'Est par exemple, il y a des acteurs de la société civile qui sont en train d'agir dans le domaine psychosocial pour accompagner les personnes qui souffrent de troubles mentaux du comportement secondaires au stress et au traumatisme psychique. Donc là, nous lançons un appel, et c'est tout le monde qui doit être mobilisé. Nous lançons un appel à tous les frères et sœurs de l'Est qui sont dans le domaine des ONG de constituer des structures de soins de santé mentale pour pouvoir accompagner les nôtres qui sont fragilisés par les événements stressants et traumatisants et de mobiliser les ressources au niveau local, au niveau national et international en faveur de toutes ces personnes-là. Donc, en résumé, il y a une politique qui doit être adoptée, vulgarisée et implémentée. Et puis, dans la couverture sanitaire universelle, il faudrait absolument que les soins de santé mentale soient prévus, parce que le problème de santé mentale affecte énormément. C'est au moins un tiers de la population qui est affectée par des problèmes de santé mentale. Et dans des situations comme celle de l'Est, on arrive jusqu'à 3 personnes sur 4 qui peuvent être fragilisées par le problème de santé mentale à cause des événements stressants et traumatiques.
Voilà, mais il avait également cette question de M. Godet concernant, parce que les constats étaient également faits, lui là qui quitte, qui beaucoup d'hommes, vous l'avez également dit, souvent il y a des hommes qui ont des problèmes, des troubles mentaux, parmi l'une de causes, c'est en tout cas la drogue, et il a posé la question de savoir s'il y a moyen de prévenir ces genres de troubles mentaux liés à la drogue.
Oui, la consommation des drogues peut être comprise comme un défaut de protection de la santé mentale. Les gens qui vont consommer la drogue, ils y vont parce qu'ils ont un problème de santé mentale pour lequel ils n'ont pas trouvé la solution. Et ils ont ce problème de santé mentale parce qu'ils ont été fragilisés soit du point de vue de l'hérédité, soit du point de vue social ou psychosocial, ils ont été exposés au risque de mauvais développement du cerveau, au risque de mauvais développement psychologique. Alors, ces personnes sont angoissées qu'à un moment donné, ils découvrent les effets, les effets, comme on peut dire, sous l'agent de la drogue. Et quand ils commencent à prendre la drogue, ils deviennent addicts, c'est-à-dire incapables de s'en débarrasser, ils ne peuvent qu'augmenter la consommation. Donc la prévention consiste à ce que, à tous les âges de la vie, on doit protéger les gens contre le stress, et ceux qui sont déjà dans le coup du stress, on doit les accompagner. Et les personnes qui sont déjà dans la consommation abusive doivent être prises en charge par de professionnels attitrés. Malheureusement, pour ceux qui sont vraiment addicts ou toxicomanes, le pays ne dispose pas encore des structures capables de le prendre en charge. Donc la prévention, c'est éviter que les gens soient exposés aux événements stressants et traumatisants depuis le temps de la grossesse au moment de l'accouchement, après la naissance, et accompagner les personnes quelconques, même les bébés, qui présentent des signes de détresse psychologique. Parce que s'ils ne sont pas accompagnés, alors ils vont aller dans la drogue, et dès qu'ils vont dans la drogue, c'est la dépendance qui, et l'accoutumance, tout ça qui s'installe, et ça devient beaucoup, beaucoup plus grave. Ceux qui sont déjà là-dedans, on doit les prendre en charge, mais il y a un défaut de structure convenable pour prendre en charge. Parce que le problème de la drogue, c'est quoi? Le problème de la drogue, c'est quoi? Je m'excuse. Il y a l'accès à la drogue. Et puis, il y a la personne qui est fragilisée, qui va découvrir la drogue parce que la drogue est disponible. Donc, il faut limiter l'accès des gens à la drogue et il faut soigner les gens qui ont besoin de prendre la drogue parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Donc, on doit lutter absolument contre le trafic de drogue et stupéfiants. Et vous savez qu'au niveau du ministère, il y a un programme national de lutte contre la drogue et les stupéfiants. Et ce programme-là est en train de mettre en place un réseau de lutte contre la consommation et l'abus de drogue. Voilà, c'est au niveau du ministère de la Santé.
Voilà, on va prendre le tout dernier auditeur, Esokoa, qui nous appelle depuis Kindu, et puis on va conclure avec vous. Esokoa, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi au docteur.
On vous écoute, Esokoa, oui.
Ok, la première question, est-ce que celui qui a une maladie mentale, il doit être guéri? Et s'il doit être guéri, comment? La deuxième question, il y a des femmes qui est conçue, et parfois, il peut être connu par plusieurs hommes. Et alors, si l'enfant est né, est-ce que cet enfant-là, il doit être normalement? C'est ça la deuxième question. La troisième question, si quelqu'un, la vie lui a compliqué, il est allé donc au fétiché pour chercher comment il doit être riche, et la vie lui complique là-bas, et il est devenu fou avec une maladie mentale, comment il doit être guéri? Il doit être guéri donc moyennant la prière ou bien Moana quoi? C'est trois questions que je voulais poser à notre invité. Merci, bonne journée, merci les journalistes.
Merci à Esokoa d'avoir appelé depuis Kindu. Professeur Okitundu Daniel.
Oui, je salue l'auditeur là qui vient de poser trois questions intéressantes, l'auditeur de Kindu. Je le salue et je le félicite pour ses préoccupations. Alors, sa première question... Est-ce que les personnes qui souffrent de maladies mentales sont soignables et comment on peut les soigner? Est-ce qu'on peut avoir une guérison? En matière de santé mentale, on parle de stabilisation et une stabilisation qui permet à la personne de reprendre son bien-être émotionnel, psychologique et psychosocial. Alors, on sait que dans 70% des cas, les gens qui ont des maladies mentales, moyennant le traitement avec des médicaments, moyennant des traitements psychologiques avec la communication et la relation, et moyennant le traitement social avec l'occupation, même des emplois protégés, ces personnes-là peuvent mener une vie stable et convenable comme toute autre personne, donc dans 70% des cas. Et le traitement doit comprendre ces multiples aspects médicamentés, psychologique, social, on peut même ajouter spirituel, on peut même ajouter éthique, parce que la personne qui a la maladie mentale est une personne déconstruite. Il faudrait la reconstruire sur tous les plans. Alors, la question de la femme qui a plusieurs rapports sexuels et avec plusieurs hommes et qui se retrouve enceinte, est-ce que son enfant... va naître normalement. Oui, j'ai dit, la maladie mentale, elle peut être d'origine hérédo-familiale. S'il y a cette possibilité-là d'une maladie qui serait d'origine hérédo-familiale, là, tout est possible. Mais pour ce qui concerne le facteur des risques environnementaux, cette femme qui a plusieurs relations avec les hommes, elle doit avoir un problème de santé mentale, notamment un problème de stress. Et si pendant la grossesse, une femme est autrement plus stressée, je l'ai dit que c'est un facteur de mauvais développement du cerveau qui va entraîner, après la naissance, un mauvais fonctionnement du cerveau avec un risque de présenter des problèmes de santé mentale, des problèmes de comportements. Alors, il y a la troisième question là qui m'échappe, vous me rappelez un peu.
C'était ouais, la troisième question, c'était lorsque quelqu'un, pour gagner la vie, il est parti chercher un féticheur. Oui.
Voilà, ok. Et là, vous entrez dans le domaine de la pensée magico-religieuse. Vous savez qu'il y a des pratiques magiques, et dans ces pratiques magiques, il y a des règles qu'il faudrait respecter. Alors, si vous ne respectez pas des règles, vous violez les règles. Les sanctions sont là. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est le stress. Le stress de n'avoir pas respecté les règles, d'avoir violé les consignes. Et on vous dit que si vous ne faites pas ça, vous aurez telle sanction. Déjà, ce stress-là, au niveau du cerveau, il peut désorganiser la personne et on peut retrouver la personne en situation de maladie mentale. Mais toutes les maladies mentales, on les soigne, non? Cette personne, on va la soigner, stabiliser le fonctionnement de son cerveau avec le médicament, et après, on va revenir à cet événement stressant ou traumatisant qu'il a connu en rapport avec ses pratiques magiques. Donc, même ces personnes-là sont soignables. Et j'ai dit, le traitement, il est médicamenteux, il est psychologique, il est social, il peut être aussi spirituel, et il peut être aussi éthique. Donc, c'est possible de prendre en charge ces personnes-là.
Voilà, professeur Okitundu Daniel, merci d'avoir été des nôtres. Nous rappelons que vous êtes neuropsychiatre, avec vous on a parlé des combats bien s'occuper des personnes atteintes par les maladies mentales. On vous retrouve prochainement et bonne journée à vous.
Merci.